Très bien. Fabrice de Pierrebourg est avec nous ce matin. Il faut revenir sur cet attentat antisémite qui s'est produit en Allemagne. Et Fabrice, on va évidemment résumer les faits, mais ça s'inscrit dans la montée du terrorisme d'extrême droite qui inquiète de plus en plus les services de renseignement, les services policiers en Occident.
Oui, tout à fait. Puis on peut dire, Paul, que rétrospectivement, on a échappé un carnage. C'était la fin de matinée hier lorsque le tireur s'est approché de l'entrée d'une petite synagogue de cette ville du nord-est de l'Allemagne, la ville de Halle. Il est habillé d'une tenue de combat avec une arme bricolée, un casque sur lequel il avait fixé une caméra GoPro qui lui a permis de transmettre pendant 35 minutes son attaque en direct sur la plateforme Internet Twitch, qui est utilisée par les amateurs de jeux. 5 personnes l'ont vue en direct seulement, mais aujourd'hui, je dois dire qu'elle est encore, cette vidéo est encore, hélas, disponible, entre autres sur Telegram. Il a essayé de faire exploser une des portes d'entrée, sans succès. Il a tenté de l'incendier, sans succès. Il s'est viré de bord. Il a croisé une femme qu'il a abattue dans le dos avant de revenir sur place et d'essayer de tirer à plusieurs reprises sur la porte d'entrée qui est toujours demeurée fermée. Il faut dire qu'à l'intérieur du lieu de culte, il y avait près de 80 fidèles qui étaient rassemblés pour la fête juive du Yom Kippour, que l'on imagine vraiment terrorisée. La motivation idéologique de l'assaillant qui a été arrêté 2 heures plus tard, un jeune homme de 27 ans, non fiché et clair. Peu avant l'attaque, on le voit toujours sur sa vidéo en train de montrer son arsenal et surtout il y tient des propos anti-juifs. Je le cite, source de tous les problèmes. Il nie l'Holocauste, il fait un discours antiféministe, c'est vraiment une classique dans cette mouvance.
Est-ce qu'il fait une référence à la Nouvelle-Zélande ou pas du tout?
Moi, je ne l'ai pas entendu en parler, mais il a posté sur Internet, en revanche, peu avant, un manifeste, ça reste encore à confirmer que c'est lui qui l'a écrit, mais quand même, il détaille son plan, ses armes et sa volonté de tuer le plus possible de ce qu'il décrit comme des anti-blancs, c'est-à-dire les juifs, les antifas et les musulmans. Et effectivement, c'est une nouvelle preuve que le terrorisme d'extrême droite est en croissance depuis 2 ans. C'est une préoccupation majeure pour les services de police et de renseignement, y compris canadiens. Il y a des groupes hyper violents au Canada, comme la division Atomwaffen ou la base, qui recrutent notamment chez les militaires. Mais c'est une menace qui est difficile à enquêter, on le répète, et cernée car diffuse, éclatée, avec des multiples sous-doctrines, et surtout parce qu'elle a été longtemps négligée à cause du terrorisme djihadiste et des protections des libertés individuelles. Conséquence, Paul, on a forcément un manque de connaissances sur le sujet dans les forces de sécurité, probablement peu ou pas de sources infiltrées. Puis au SRS, on dit s'inquiéter maintenant du mimétisme entre les modes opératoires entre djihadistes et extrémistes de droite. On l'a vu avec le cas dont on va parler, on l'a parlé il n'y a pas longtemps, de Mination à Toronto en 2018, qui avait utilisé une voiture bélier. Et c'est le 3e attentat d'extrême droite antisémite en 1 an. On a eu Christchurch, effectivement, en mars, 51 morts, où le tueur lui aussi s'était filmé en direct, et puis Pittsburgh en octobre 2017. Mais on peut ajouter El Paso cet été, Québec, Toronto, tous reliés à l'extrême droite violente.
Bon, et on a parlé, il n'y a pas si longtemps, de cet ancien militaire du Manitoba qui était un recruteur pour un groupe néo-nazi et qui est activement recherché par la GRC.
Et oui, puis il s'est volatilisé vraiment il y a 7 semaines, peu après avoir été démasqué par un journal manitobain et que son domicile ait été perquisitionné par la GRC. Matthews était, semble-t-il, un membre de la base, donc un groupe suprémaciste prenant le recours à la violence. Son véhicule a été retrouvé début septembre à la frontière avec le Minnesota, où les autorités le recherchent aussi. Il y a un avis de recherche du shérif local. Le fait qu'il se cache aux États-Unis est une hypothèse plausible, m'a confirmé la GRC hier. Matthews aurait déjà participé à au moins 1 camp d'entraînement paramilitaire aux États-Unis avec d'autres extrémistes il y a quelques mois.
Merci beaucoup. Et je me tourne vers Esther pour parler de ce qui se passe évidemment avec la Turquie. La Turquie qui a lancé une offensive contre les Kurdes qui sont en Syrie. Le Conseil de sécurité de l'ONU va tenir une réunion d'urgence.
Après des bombardements aériens et d'artillerie hier, des militaires turcs et l'armée nationale syrienne constituée de rebelles ont passé la frontière. La panique s'est alors répandue dans les zones civiles visées par ces attaques. On rapporte d'ailleurs plusieurs victimes et parmi les civils, mais aussi les forces kurdes, de même que des milliers de déplacés. Les Kurdes, qui sont les alliés des Américains, gardent quelques 80 000 djihadistes dans des camps et l'opération turque fait bien sûr craindre pour leur évasion. À Washington, des élus du Congrès, dont des républicains, ont demandé au président Trump d'agir contre la Turquie. Les dernières dépêches, d'une part, les forces turques affirment avoir capturé des cibles désignées et les forces kurdes, elles, disent avoir repoussé un nouvel assaut terrestre de l'armée turque. Et ce qu'on voit à répétition sur les réseaux sociaux, pour terminer, c'est que les Kurdes, encore une fois, sont trahis, qu'ils ont été considérés comme des héros alors que femmes et hommes combattaient Daesh et que maintenant, soit on les ignore, soit on les traite de terroristes.
Ben, je profite de la présence de Fabrice, un coin que tu connais bien, évidemment. Puis peut-être juste avant de parler des Canadiens qui sont là-bas, de bien situer qui sont les Kurdes dans ce conflit.
Bah, les Kurdes en Syrie, qui ne sont pas les mêmes en Irak, ceux d'Irak, ils avaient été formés par les Canadiens, les Peshmerga. Ils font partie d'une coalition qu'on appelait les Forces démocratiques syriennes, coalition arabo-kurde. Et ce sont eux vraiment qui, depuis 4 ans, étaient sur le terrain avec des brigades hommes et des brigades femmes. D'ailleurs, on a vu ces images pour se battre en première ligne contre le groupe armé État islamique. C'est eux qui ont défait, qui ont repris ce territoire finalement au bout de 4 ans. On y était au mois de mars dernier au groupe armé État islamique. Et c'est aussi eux qui détiennent en ce moment des milliers, comme on l'a dit, comme l'a dit Esther, 80 000 djihadistes, dont environ 3 000 étrangers et une trentaine de Canadiens, dans des camps et dans des prisons, dont certaines sont situées justement sur la bande de 30 km que le président turc Erdogan veut récupérer parce qu'il ne veut rien savoir. Lui, il a peur d'un État kurde qui s'installerait terroriste, comme il le décrit, au sud de sa frontière. Alors maintenant, il va se passer le scénario qu'on anticipait tous, pour lequel on s'est fait souvent critiquer, c'est qu'est-ce qui va arriver de ces djihadistes ? Est-ce que le président Erdogan, ce matin, vient de dire qu'il allait s'en occuper ? Il va s'en servir probablement de monnaie d'échange, y compris contre le Canada. Et quant aux autres qui sont dans une énorme prison, un énorme camp plus au sud, eh ben, le groupe armé État islamique doit se frotter les mains parce que les soldats kurdes, en ce moment, leur priorité, c'est de défendre la frontière nord. Donc forcément, ils vont lâcher du terrain au sud. Et qu'est-ce qui va se passer ? Probablement, la nature ayant horreur du vide, le groupe armé État islamique va en profiter pour gagner du terrain. J'ai comme le sentiment qu'on est reparti à la situation d'il y a 5 ans.